Saviez-vous que l'autre histoire de Genève, une chronique insolite présentée par Carlo Ruexeger.
La rivière, personnage d'une bonne famille genevoise, est l'un des rares citoyens qui fréquentait sous le Premier Empire les bals de la préfecture. Il fut célèbre par ses mystifications. Un jour, on vint prévenir l'auditeur que la rivière dans son appartement de la Tour de Boëlle, actuellement c'est notre gouvernement qui s'y est installé, avait à la suite d'une dispute très vive avec sa femme, jeté celle-ci par la fenêtre et qu'en tombant, la malheureuse avait poussé un cri effroyable. Son cadavre gisait inanimé sur le sol de la cour. Ce magistrat se transporta au domicile de l'assassin, se fit ouvrir la porte au nom de la loi et trouva un autre homme attablé avec sa moitié. Il avait simulé une bataille et jeté un mannequin du quatrième étage. Curieux. Une autre fois, il se rendit sur le marché au bois à la Coratrie. Il y fit l'acquisition à deux marchands de deux chars de fagots. Les fit décharger au bout de l'allée Malbuisson pendant qu'il allait, disait-il, chercher l'argent. Il s'en fut chez lui, se grimer et changer de vêtements. Puis il revint méconnaissable assister à une scène indescriptible. Des deux marchands, aucun ne voulait recharger les petits fagots, chacun voulait les plus gros. De là, bataille, gifle et intervention de dame police. Par un beau jour de marché, la rivière se rendit sur la place de la Fusterie, derrière le temple où se tenaient les marchands de Savoie. Il en avisa qu'ils vendaient des œufs. Les marchands d'ail en acheta 6 douzaines, à la condition qu'il les compterait et les déposerait entre les bras du marchand que celui-ci devait tenir plié sur sa poitrine. Quand tous les œufs y furent placés, le savoyard ne pouvant plus bouger, la rivière lui déboutonna et descendit ses culottes jusqu'à terre. Puis il se sauva. On rit. Ah ça, pour rire, on a bien ri. Car c'était entre midi et 1 heure, au plus beau temps de la fabrique, c'est-à-dire au temps où les gens avaient leur pause de midi pour manger. Nous pourrions faire bien d'autres récits de ces farces. Nous les laissons aux militaires pour égayer les corps de garde. Le Grand Orcier était un célèbre contrebandier qui, vers la fin du Premier Empire, fut surpris transportant un ballot par des douaniers embusqués à la frontière. Il fallut, pour le ligoter et le conduire en prison, 12 de gendarmes des plus solides. À cette époque, les droits d'entrée y étaient exorbitants et la contrebande n'était regardée comme une fraude que par les agents du fisc. Étant donné ces dispositions d'esprit à leur égard, plus ces gaillards étaient forts ou hardis, plus ils paraissaient grands aux yeux de la foule, ce qui explique l'espèce de célébrité dont jouissait notre héros. Qu'on en juge par l'anecdote ci-dessous. En 1835 ou 37, Dorcier demeurait rue Rousseau, au numéro 42. Un jour de marché, un de ces paysans gésiens, renommés pour leur manière de ranger les fagots de bois sur les chars en plaçant les gros bouts des bûches en dehors et les courtes en dedans pour faire du vide, un de ces tiocans, disons-nous, passait à Cornavin en criant « Achetez du bon bois !» Survint Dorcier. Il marchande le sang de fascine au prix fait par le marchand. Dorcier répond d'une voix tremblotante « C'est trop cher, on pourrait emporter cette charge d'un seul voyage. » Les curieux écoutaient la discussion, présageant bien quelques farces. Alors le tiocan, piqué au vif, lui dit « Si vous emportez le chargement d'une seule fois, je vous le donne, mais il faudrait le décharger. » « Pas besoin, » dit le vieux Dorcier. Puis, se mettant à 4 pattes sous le véhicule, il se relève et emporte le char, le bois et le cheval qu'il dépose au bout de notre allée, car nous demeurions porte à porte. Qui n'a jamais entendu parler de la mère Fénelon? Cette fripière au visage couperosé, la reine du quartier de la Madeleine, était dans ce temps la vraie compagne, disons le sosie de la Robineau. Elle était dans son entourage ce que la poissonnière était au meulard. Un peu plus même, car son quartier était habité par des ménages peu aisés auxquels des gens charitables devaient souvent tendre une main secourable. Et notre héroïne ne souffrait pas que ses bienfaits s'accomplissent sans sa participation. Il n'y avait qu'un malheur, c'est que le bien qu'elle faisait ne sortait pas directement de sa poche. La pauvre femme fit 3 fois faillite, et ses infortunés créanciers ne trouvaient pas toujours ses charités bien placées. Madame Fénelon convola un 2e et, croyons-nous, un 3e noce. Non que les adorateurs s'adressèrent à ses charmes, mais il y a des hommes qui, comme les alouettes, se laissent attirer par tout ce qui brille. Or, la bonne femme se couvrait de clinquants. Bonnet fleuri, enturbanné, broche, bague, boucle d'oreille et chaîne en or. Disons pour terminer, au 22 juillet, les enfants du quartier promenaient un mannequin qui ressemblait justement à la mère Fénelon. Puis ils dansaient des rondes en chantant « Tiens bon Marie-Madeleine, tiens bon Marie-Madeleine !» Puis un petit goûter clôturait la fête. Dans un procès que cette femme soutint contre un voisin, maître Friedrich, son avocat, fit pour la défendre un joli jeu de mots, faisant allusion aux nombreux témoins. « Messieurs, dit-il, on a rassemblé tout le quartier de la Madeleine contre la Madeleine du quartier. »
Bientôt, d'autres histoires.